Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Ce regard sur la Grèce à l'occasion des élections législatives qui se tiennent ce dimanche 25 janvier, une élection extrêmement suivie en Europe tant les enjeux vont bien au-delà des enjeux nationaux. Rarement sans doute un tel scrutin n'aura généré autant de prises de position venant de membres de la classe politique européenne ou de déclarations émanant de décideurs économiques jusqu'à interférer dans le choix des Grecs. L'interrogation mérite en tout cas d'être soulevée. Le monde semble craindre que le peuple grec se rende aux urnes. Comment va la Grèce en cette veille de scrutin et après des années d'austérité? Nos invités par téléphone depuis Athènes, Adéa Guillot, journaliste et correspondante des quotidiens Le Monde et Le Soir de Bruxelles, également la chaîne de télévision Arte, co-auteur avec Françoise Arvanitis de Grèce, la nouvelle Odyssée. Bonjour.
Bonjour.
Joëlle Dallègre, historienne spécialiste de la Grèce moderne et auteur de nombreux ouvrages, dont Regard sur la crise grecque. Bonjour.
Bonjour.
Gabrielle Colettis, en duplex avec nous depuis Toulouse, professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse 1 et auteur de plusieurs ouvrages sur les dynamiques du capitalisme, la crise et ses issues en Grèce, également d'un ouvrage paru en grec et en Grèce sous le titre « Sortir de la crise pour un pays que nous méritons ». Gabrielle Colettis tient également un blog sur Mediapart. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Georges Prevelakis, professeur de géopolitique à l'Université Panthéon-Sorbonne et auteur précisément d'une géopolitique de la Grèce. Bonjour.
Bonjour.
La lutte contre le chômage et la pauvreté est l'un des enjeux des élections qui vont se jouer entre la nouvelle démocratie d'Antonio Samaras au pouvoir et Syriza. Adéa Guillot, c'est une sorte de duel donc qui se présente à la veille du scrutin de demain, donc dimanche 25 janvier. Qu'est-ce que l'on peut dire de la campagne, de la manière dont elle s'est déroulée et ce qu'elle a révélé?
C'est une campagne, c'est vrai, un peu particulière à laquelle on a assisté. D'abord, ça a été une campagne extrêmement rapide, parce que les élections ont été annoncées fin décembre. Et il a fallu 4 semaines, 5 semaines de campagne, alors c'est vraiment une campagne éclair. Et elle s'est située à deux niveaux, je dirais. D'abord, entre les deux parties de tête, entre le parti de la gauche radicale Syriza et puis les conservateurs de la Nouvelle Démocratie, Syriza étant toujours donné en tête à la veille du scrutin. Alors là, eh bien, on a eu une campagne très bizarre entre une nouvelle démocratie qui a centré l'ensemble de son effort sur la critique de Syriza, qui n'a pas tellement fait de propositions, qui n'était pas présente sur le terrain, qui n'a pas fait une campagne d'affichage comme elle avait l'habitude de le faire. Et puis Syriza qui a mené une campagne bien, je dirais, à la fois envers les Grecs avec un programme anti-austérité qu'elle a répété, envers l'Europe et le monde, pour convaincre l'Europe et le monde qu'il n'était pas si dangereux. Au moment où peut-être ils vont prendre les rênes du pouvoir demain. Mais il y a une deuxième sous-campagne sous-jacente qui était celle pour la troisième place, parce que l'ensemble des sondages donne Syriza en tête, mais pas avec une majorité absolue. Alors s'ils n'arrivent pas demain à obtenir la majorité absolue, il faudra qu'ils forment une coalition, et dans ce cas-là, le troisième parti sera évidemment stratégique. Et donc la bataille pour la troisième place a été très forte en Grèce. Deux partis sont au coude à coude, le Potami, un parti de centre-gauche, qui est assez récent, et puis le parti néo-nazi, malheureusement, de l'Obdoré, qui continue dans les sondages à obtenir jusqu'à 7% des voix. Et ça a été vraiment une campagne très, très particulière.
Alors, très particulière, on reviendra peut-être dessus, Gabrielle Colettis, donc la question est la bataille autour des petits partis. Il y en a peut-être un troisième de petits partis, c'est le Parti communiste.
Alors en effet, en Grèce, il existe un parti communiste, et ce parti communiste grec a déclaré à maintes reprises qu'il ne participerait à aucune alliance. C'est un parti qui se refuse, dans ses déclarations du moins, à suggérer l'hypothèse d'une alliance. Mais je rappellerai que, en dépit de ses positions, au début des années 90, ce parti a déjà gouverné la Grèce, à l'époque d'ailleurs avec la droite, et donc, il se peut très bien qu'au lendemain des élections, la position de ce parti évolue. Je crois que le jeu reste très ouvert. Et comme Adéa Guillot l'a dit récemment, la question du troisième, quel sera le troisième gagnant en quelque sorte de ces élections, est importante. Mais beaucoup de majorités sont possibles, y compris des gouvernements d'union nationale entre Syriza et peut-être les Grecs indépendants. Ce n'est pas impossible.
Un commentaire, Joëlle Dallègre et Georges Prevelakis en studio sur ce qui vient d'être dit.
En fait, sur le fond, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que la lutte pour le troisième, quand à mesure où elle conditionne ensuite les différentes alliances possibles, prend de l'importance, d'autant plus que parmi les troisièmes possibles, il y en a quand même deux qui sont difficiles à caser. Je veux dire, s'allier au Parti communiste avec ses positions, etc., et s'allier à l'Aube dorée, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et puis, en même temps, comment on peut arriver à faire une majorité? Parce que si on n'arrive pas à faire une majorité et un gouvernement, mais il faut recommencer.
Georges Prévérakis.
Oui, moi je pense que les déclarations visent, si vous voulez, à l'échéance électorale. C'est-à-dire chacun déclare ce qui lui paraît le plus efficace pour avoir le maximum de voix. Le lendemain des élections, tout est oublié et on recommence. Selon les résultats, je pense que toutes les alliances, sauf évidemment l'Aube dorée, sont possibles. Ça dépend beaucoup du degré de réussite de Syriza. Ça dépend de combien de députés ils auront besoin.
On peut rappeler qu'il faut une majorité de 151 sièges sur 300 députés au total.
Donc s'il leur manque deux ou trois sièges, ils ont plus de marge de manœuvre pour choisir leur partenaire. S'il leur manque beaucoup, obligatoirement, ils seront obligés de travailler avec ceux qui disposent de ces sièges. Donc, on est vraiment dans une situation où on ne peut pratiquement rien prévoir.
C'est très ouvert, Adia Guillaume.
Oui, on ne peut rien prévoir. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est vrai que si Syriza durcit un petit peu son discours, là, juste avant le scrutin, pour essayer de rassembler le plus possible et de dire on ira seul, parce qu'il veut obtenir une majorité absolue, hein, c'est vraiment son objectif, là, immédiatement, apparemment, ça ne va pas se passer. En tout cas, il faut aussi s'intéresser à ce qu'il a fait, ce parti, depuis deux ans. Et ce qu'il a fait depuis deux ans, c'est essayer de créer des alliances, s'ouvrir. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder de plus près, plutôt que les dernières déclarations.
Alors, on va revenir, et je vous poserai la question de savoir ce qu'il y a et ce que regroupe chacun des deux gros principaux partis, donc Syriza et Nouvelle Démocratie. J'avais compris que Alexis Tsipras, un temps, s'était promis de ne s'allier qu'aux communistes. Il a changé de position, Adia Guillaume ?
Ça fait deux ans. Je pense que s'allier aux communistes, de toute façon, les communistes, eux, ne veulent s'allier avec personne, comme l'a rappelé très bien M. Colletti. Ensuite, naturellement, je dirais qu'idéologiquement, oui, il y a peut-être une corrélation entre ces deux partis. Mais en vérité, depuis 2012, Syriza est devenu un parti qui pouvait se rapprocher du pouvoir. Il y a vraiment un virage qui a été pris de changer le discours, de changer aussi la plateforme, d'ailleurs, de programme, et puis de se rapprocher, de chercher des alliances au sein des autres formations politiques. Je crois Prévelakis parlait peut-être des Grecs indépendants. Alors, les Grecs indépendants, c'est la droite populiste en Grèce. Donc, plus loin de Syriza, on ne peut pas. L'objectif sera certainement de créer un gouvernement le plus rapidement possible, parce que l'objectif, c'est de ne pas aller vers un second scrutin. C'est de rassurer les créanciers du pays, parce qu'il y a des négociations importantes. Les enjeux sont très grands. Et la Grèce ne peut pas se permettre d'aller dans des élections à répétition. Et ça, je crois qu'au sein de Syriza aussi, on en a conscience. Alors, on peut être comme ça, dans un discours un peu brutal là, d'avant scrutin, mais ils auront à cœur, je pense, une fois le scrutin passé, de trouver une alliance.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, les enjeux sont très grands, on y reviendra bien sûr. Gabriel Colletti, je me tourne vers vous. Que regroupe Syriza d'un côté et la Nouvelle Démocratie de l'autre? Qu'est-ce que l'on peut dire de ces deux forces en présence?
Alors, s'agissant de la Nouvelle Démocratie, bien comme ceci a été rappelé, c'est un parti conservateur, c'est un parti qui a gouverné la Grèce et qui a mis en œuvre donc un programme libéral ou même ultra-libéral, composé, comme on le sait, de mesures d'austérité et de mesures de déréglementation, en particulier en matière de droit du travail, et on connaît les résultats en Grèce, on en parlera peut-être, qui sont proprement catastrophiques de la mise en œuvre de ces politiques-là. En face, Syriza est en fait au départ du moins un cartel de mouvements politiques ou une nébuleuse de partis politiques. Et je crois que le travail le plus important qui a été opéré depuis maintenant 4-5 ans dans ce parti, c'est la constitution en quelque sorte d'un corps de doctrine commun sur les questions clés. Quels sont les problèmes de la Grèce? Évidemment, les problèmes de la Grèce ne datent pas de 2008. Quelles sont les solutions qui doivent être apportées? Est-ce que la Grèce doit rester à l'intérieur de la zone euro? la réponse a été donnée, hein, elle est très claire. La Grèce restera dans la zone euro. Que faire de la dette? Comment organiser le programme de développement de la Grèce, ce qui est pour moi et pour Syriza l'enjeu tout à fait central. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, même s'il y a des discussions, des débats au sein de Syriza, et il y en a dans tous les partis politiques en Europe et dans le monde, ce corps de doctrine commun existe et Syriza peut en effet être à la fois un parti radical et responsable.
Georges Prevelakis.
Oui, moi pour, si vous voulez, présenter un autre point de vue, je pense qu'on ne peut pas parler de la Nouvelle Démocratie comme un parti ultra-libéral ou même libéral. Nous avons une vieille tradition en Grèce d'étatisme. Tous les partis sont étatistes. Et la politique qui a été suivie par la Nouvelle Démocratie a été d'augmenter l'imposition, de protéger l'État. Bien sûr, au sein de la Nouvelle Démocratie, il y a eu des ministres qui voulaient suivre un chemin plus libéral. Les réformes qui ont été commencées ont été plus ou moins bloquées. Et en fait, je pense que le problème de cette période a été qu'on n'a pas fait les réformes nécessaires et qu'on est allé trop loin dans une politique de fiscalité, d'augmentation de la pression fiscale. Et on n'a pas réussi à assainir l'administration publique qui est le grand malade.
Donc c'est un échec de la politique de la Nouvelle Démocratie depuis 4 ans. C'est cela qu'il faut entendre, Georges Prevelakis ?
Écoutez, c'est un échec, évidemment, à partir du moment où on arrive à cette situation. Mais c'est, à mon sens, c'est un échec pour des raisons inverses. Hein, c'est-à-dire pas parce qu'on a suivi une politique libérale ou ultra-libérale, mais au contraire parce qu'on n'a pas fait les réformes. Et en fait, je dirais que ce n'est pas un échec de la politique de la Nouvelle Démocratie, c'est un échec de la stratégie qui a été suivie. Parce que la Grèce, depuis le début de la crise, il faut le dire, est pratiquement sous tutelle. C'est-à-dire les gouvernements ont eu très peu de marge de manœuvre. Alors donc, d'un côté, je pense que l'impulsion pour plus de structurel, peut-être moins de rigueur, n'a pas été donnée. Et d'autre part, cela a été interprété par le système politique de manière extrêmement conservatrice. C'est-à-dire, le système politique a essayé de continuer dans la mesure du possible, comme auparavant, n'a pas eu le courage d'avancer dans les réformes qui auraient pu donner une impulsion à l'économie pour créer les conditions pour ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'investissement et la croissance.
Moi, je voudrais rebondir à deux niveaux.
Adia Guillaume, après ça, je vous passerai la parole, Gilles Dallègre. Oui. Adia Guillaume.
Excusez-moi. Non. Je voulais rebondir à deux niveaux, puisque vous parlez de tutelle, de mise sous tutelle. Alors, c'est vrai que cette mise sous tutelle s'est traduite par une politique de dévaluation interne qui a été imposée au pays, d'essayer de dégraisser la fonction publique, d'essayer de réduire le budget de l'État, etc. Donc, je dirais tout l'effort qui a été lancé en Grèce sous l'impulsion des créanciers, notamment du pays, hein, en échange des 240 milliards d'impôts, il faut le rappeler qu'il y avait une obligation contractuelle de mener ces efforts, ont été faits. Il y a des réformes qui ont été entreprises, mais qui avaient une finalité purement économique. Et les réformes auxquelles vous vous référez, vous, qui sont des réformes structurelles, d'État, politique, et qui étaient finalement le cadre des réformes qui incombaient au monde politique et à la classe politique grecque, n'ont pas eu lieu car la classe politique grecque en l'État n'a aucun intérêt à entreprendre ces réformes, puisque le système clientéliste qui caractérise la vie politique grecque se base sur cette espèce de connexion entre un service, un État dont dépend l'économie, etc. Donc ce sont des réformes qui dépendaient des gouvernements grecs, qu'elles n'ont pas eu à entreprendre et que les créanciers n'ont jamais exigé par ailleurs.
Oui, donc on est d'accord.
Alors moi, je ne suis pas... Je vais laisser la parole de suite
Gabriel
à Gilles
Dallègre.
Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que mon collègue Prevelakis a dit il y a quelques instants. Hein. Je maintiens absolument que la Nouvelle Démocratie a mis en œuvre une politique libérale et ultra-libérale. Évidemment, il ne s'agit pas de la Nouvelle Démocratie des années 80, ce n'est pas de celle-ci dont je parle. Je parle de la Nouvelle Démocratie d'aujourd'hui, de 2015, et en effet, la politique a été menée de manière très active. Il est vrai que la tutelle bruxelloise ou de la Troïka a existé, mais le gouvernement grec est absolument responsable de la politique qu'il a mise en œuvre. Mmh. Cette politique, la Nouvelle Démocratie, eh bien, c'est une politique qui a démantelé l'État, qui a fait chuter le nombre de fonctionnaires, qui a déréglementé de manière tout à fait massive, qui a fait chuter de manière considérable les dépenses de l'État dans tous les domaines, économiques, sociaux. Voilà, et donc je ne crois pas qu'on soit allé trop loin. Je crois tout simplement qu'on est allé dans la mauvaise direction. Ce n'est pas une question de graduation, c'est une question d'orientation. Et Ce que Syriza propose, c'est évidemment une rupture en matière d'orientation. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de choix politique.
Je ne crois pas, par exemple, que Syriza propose de réaugmenter le nombre de fonctionnaires. Je crois qu'il y a un consensus sur l'idée tout de même que la fonction publique avant crise était peut-être trop importante, qu'elle a été ramenée à un niveau un petit peu plus cohérent avec les besoins du pays. Après, il y a une autre discussion sur les services publics, etc. Et là, c'est la ligne de programme de Syriza. Mais je ne crois pas que sur le volume de la fonction publique, Syriza ait proposé d'augmenter le nombre de fonctionnaires.
Joël Dallègre.
Je voulais dire simplement qu'en fait, on a fonctionné dans une logique purement mathématique et chiffré en oubliant totalement qu'il y avait des gens là-dedans. Donc, on est aussi parti au plus facile. Et donc, supprimer des postes, supprimer de l'argent, supprimer une indemnité, etc., c'est simple à faire. Beaucoup plus simple que les vraies réformes et beaucoup plus simple que ce qui aurait pu relancer l'économie, alors que si d'un côté on donne toutes les conditions pour arriver à la déflation, à la crise et au chômage, il faudrait aussi penser à fabriquer une autre Grèce, parce qu'on a dit on n'est pas content de la Grèce, voilà, mais on n'a rien fait dans l'autre sens. Et c'est vrai que cette logique purement chiffrée, ah, je veux 3%, pas 2,5%, pas 3,1%, je veux enlever 2000 personnes, je vous donne une instruction, il faut que vous ayez supprimé 15 000 postes à telle date, pas 14 000, pas 16 000. Et cette logique strictement mathématique, dont après on s'est aperçu que finalement, c'était peut-être pas bon.
Georges Prévelakis.
Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on n'avait pas d'autre option. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autre option? Parce que les mesures qualitatives, parce qu'une politique intelligente demande une administration qui fonctionne. Avec qui est-ce qu'on va faire ça? On est parti avec une administration qui était en très mauvais état du point de vue qualitatif. Pourquoi? Parce que l'objectif, si vous voulez, des embauches, ce n'était pas de trouver des bons cadres, mais de placer ses amis. C'était dans la logique clientéliste. Donc, on est parti avec une administration qui était de très mauvaise qualité et on voulait réformer cette administration en utilisant comme instrument cette même administration. C'était impossible. C'est pas par mauvaise volonté, c'est tout simplement parce qu'on était sous la pression de faire des économies et le seul moyen possible pour faire des économies, c'était ces coupes horizontales qui, bien sûr, ont eu comme résultat d'affaiblir encore plus l'appareil administratif.
Donc c'est bien la solution de facilité, en définitive, qui est imposée.
Mais il n'y en avait pas d'autres disponibles. Je ne dis pas que c'est bien. Il n'y a pas de solution simple et facile.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur la façon dont la population grecque a vécu toutes ces années. Ce que je retiens, et je me tourne vers vous, Ada Guillot, on avait le sentiment que ce que subissait la Grèce depuis 4-5 ans était uniquement inhérent à ce que l'Europe imposait. Et ce qu'on entend tout de même avec les réflexions dans cette émission, c'est que finalement, les responsabilités, d'une certaine manière, sont partagées.
Mais les responsabilités sont évidemment partagées dans le sens où on a un gouvernement élu et qui applique des recettes. Il faut séparer deux choses. Il y a cette réforme de l'administration de l'État qui fait l'objet du débat. Et je crois que là, les responsabilités grecques sont très importantes dans le sens où ça, c'est le cœur du problème de fonctionnement de l'État grec qui va avec les vrais problèmes de corruption, de népotisme et de clientélisme. Et là, l'État grec et les responsables politiques grecs, vraiment, c'est leur travail. Et c'est pas de l'extérieur qu'on va réformer ces mentalités-là. Il faut que le pays et que ses responsables politiques fassent un effort. Par contre, pour ce qui est sur le strict plan économique des recettes qui ont été mises en place, là, on peut dire qu'il y a vraiment une influence européenne, parce que ça, ce sont des recettes qui ont été négociées entre l'État grec et ses créanciers dans le cadre des deux grands mémorandums, ces accords cadres de mesures diverses, jusqu'à 600 mesures, qui ont été imposées véritablement à la Grèce en échange des 240 milliards d'euros de prêts. Donc il y a véritablement deux axes de réforme. Un, je dirais, sur la réforme de l'État où il y a une grande responsabilité des politiques grecques, et l'autre sur les réformes économiques. Et là, on a un dogme économique européen qui dépasse largement le cadre de la Grèce, qui a été expérimenté et appliqué en Grèce, mais d'ailleurs pas qu'en Grèce, aussi en Italie, aussi en Espagne. Et là, cette limite-là de ces réformes économiques et de cette ligne et de ce dogme économique, c'est en Europe que ça se joue. C'est pas en Grèce. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la France qui essaye d'influer, par exemple.
Géopolitique, en cette fin de première partie, nous saluons nos auditeurs en Afrique qui nous quittent pour le football avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui peuvent nous retrouver sur le site de RFI, www.rfi.fr. Et pour les autres auditeurs, nous vous retrouvons avec plaisir dans quelques instants avec nos invités, Georges Prévelakis, Ada Guillot, Gabriel Colitis et Joël Dallègre. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Grèce en cette veille d'élections législatives. Un scrutin suivi à la loupe dans l'Union européenne et pas seulement. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Athènes. Adéa Guillot, journaliste correspondante des quotidiens Le Monde et Le Soir de Bruxelles, également la chaîne de télévision Arte. Joëlle Dallègre, historienne spécialiste de la Grèce moderne. Gabriel Colitis, professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Et Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à l'Université Panthéon-Sorbonne. Adéa Guillot, qu'est-ce que l'on peut dire de l'état d'esprit de la population grecque en cette veille de scrutin ?
Bien, je dirais que c'est contrasté, hein. C'est difficile de parler de la population grecque parce que les attentes sont très différentes sur ce scrutin. Il y a ceux qui ont le plus souffert de la crise, c'est-à-dire cette Grèce déclassée qui a perdu en pouvoir d'achat jusqu'à 40% de pouvoir d'achat, dont les salaires ont été diminués de près de 30%, ou alors tout simplement qui ont perdu leur emploi vu qu'on a 25% de la population active est en chômage. Cette Grèce-là est finalement qui s'apprête à voter certainement Syriza, eh bien attend le changement. Et puis il y a une Grèce inquiète, qui avait l'impression qu'on peut-être les sacrifices et les efforts menés depuis 4 ans commençaient peut-être à mener leurs fruits, et cette Grèce-là redoute l'arrivée de Syriza au pouvoir et est très inquiète aujourd'hui.
Donc de l'attentisme et de l'inquiétude, évidemment cela se reflète aussi à l'extérieur.
Seulement de l'espoir aussi, je veux dire, de la part de cette population qui espère le changement. Et tout cela en même temps.
Georges Prévelakis.
Oui, quel espoir. C'est vrai que c'est l'espoir, mais je crains que les mentalités n'ont pas évolué suffisamment. Et qu'en fait, c'est que la Grèce qui vote Syriza espère, c'est de revenir en arrière. Je suis inquiet parce que je ne pense pas qu'on est arrivé à une maturité qui nous permet de regarder vers l'avenir, mais c'est plutôt de récupérer le paradis perdu d'avant la crise. Je pense que c'est assez intéressant de voir l'évolution de voix du PASOK et de Syriza. On voit que en 2009, le PASOK avait obtenu 44% de voix et en juin 2012, 12%. Donc c'est une chute vertigineuse. Et maintenant, les sondages donnent quelque chose autour de 4-5%. Et si on compare, on voit que ce qui a été perdu par le PASOK a été, d'une certaine manière, il y a un parallélisme au moins, c'est-à-dire le Syriza en 2009 avait obtenu 5% à peu près. Et là, on prévoit 30-32%. Alors, donc, on a le sentiment que pour beaucoup de Grecs, Syriza, c'est un retour vers le PASOK qu'on avait abandonné, c'est-à-dire un parti qui, d'ailleurs comme la Nouvelle Démocratie, était étatiste, clientéliste et qui avait comme véritable mission pour une grande partie de Grecs d'obtenir de la rente du côté de l'Europe et de faire la distribution de la rente. Et je pense que c'est ça qui est le danger pour un éventuel gouvernement Syriza, c'est que je pense qu'il y a un décalage entre la volonté des cadres de Syriza qui déclare, je pense sincèrement, vouloir sortir de cette situation problématique de la politique grecque et la véritable attente d'une grande partie de l'électorat qui est au contraire d'aller en arrière. Et je pense que là, nous avons peut-être une bombe à retardement.
Alors, on va parler économie, mais je vous donne la parole, Joëlle Dallègre.
Moi, j'ai été frappée par certaines choses qui sont dans les innombrables sondages dont on a été abreuvé. C'est une partie des questions, parce que demander aux gens pour qui ils veulent voter, c'est pas très original. Par contre, quand on leur demande finalement s'ils veulent rester ou pas dans l'Europe, il y a, quel que soit le sondage, une énorme majorité pour. Et il y a toujours eu cette énorme majorité pour. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est la volonté, je veux dire, beaucoup de gens se déclarent favorables à un gouvernement d'union nationale. Ils se posent pas la question de savoir s'il y aura majorité pour X, pour Y, etc., absolue, mais un gouvernement d'union nationale, dont on espère sans doute qu'il pourrait combiner les bons côtés des deux grands partis. Et puis aussi, le fait que souvent, je suis tombée sur une question que j'ai trouvé quand même assez importante, c'est dire aux gens qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Je veux dire, d'habitude, on demande aux gens pourquoi ils veulent voter pour quelqu'un. Mmh. Et là, c'est qu'est-ce que vous craignez le plus ? Est-ce que c'est Syriza et la peur de l'inconnu ? Ou est-ce que c'est la nouvelle démocratie et la continuité de l'austérité ? Et il y a eu plein de réponses. Il y a très peu de gens qui ont répondu qu'ils n'avaient pas peur. Hein. Il y a à chaque fois plus de 40% qui ont peur de l'un ou de l'autre. Et presque autant, d'ailleurs. Et je me suis dit que c'était marquant ou significatif qu'on puisse poser aux gens comme question à une veille d'élection, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?
Bon, ça, c'est lié aussi, c'est lié au climat de campagne qui est très axé d'un côté comme de l'autre, hein, sur la peur. Je veux dire, il y a une polarisation autour de cette question. C'est une instrumentalisation purement politique. Il ne faut pas trop non plus s'attarder sur ce résultat-là, je pense. Par contre, ce qui est important dans ce que vous révélez, c'est l'Union nationale. Parce que, effectivement, s'il y a, je dirais, 30% de l'électorat qui veut véritablement voter pour Syriza, encore une fois, c'est 30% de la population grecque qui souffre et qui a le plus souffert, qui a été la victime principale, qui vote pour Syriza parce qu'ils ont l'impression que Syriza va mettre fin à leur douleur et donc croient dans leur programme social. Je pense qu'il y a tout de même en Grèce aujourd'hui, que ce soit les 25% du hardcore électoral des conservateurs ou le reste de la population, qui souhaite que la Grèce arrive unie en Europe et puisse négocier de manière unie en Europe. Vous avez rappelé qu'il y a 80% des Grecs qui sont très attachés à l'Europe, ça s'explique dans l'histoire. L'Europe a mis fin, l'idée d'appartenir au projet européen a mis fin à leurs errances politiques qui les a quand même conduits au cours du XXe siècle à une guerre civile, deux dictatures, etc. Les Grecs sont très attachés à l'Europe et c'est vrai que leur plus grande crainte peut-être serait de sortir de cette famille-là. Et l'Union nationale, c'est quelque chose d'important. Pour eux, aujourd'hui.
Alors, je vais passer la parole à Gabriel Colitis pour parler d'économie. Donc, Gabriel Colitis, Adéa Guillot vient de le dire, hein, et vous l'avez dit les uns et les autres, cet attachement de la Grèce à l'Europe. Il n'empêche que cette campagne, elle a été l'occasion de beaucoup de choses, hein, notamment à propos de l'euro, Syriza qui a évoqué une possible sortie de la Grèce de la zone euro. Finalement, son leader, Alexis Tsipras, est revenu dessus. En tout cas, l'économie grecque aujourd'hui, elle continue de susciter de l'inquiétude. Alors, à défaut de sortir de l'euro, en tout cas, est-ce qu'on échappera finalement à une nouvelle restructuration de la dette grecque, quelle que soit l'issue de l'élection du 25 janvier ?
Je vais vous répondre immédiatement. Je voudrais juste simplement corriger un point. C'est que je ne pense pas du tout que Syriza ou que les personnes qui s'apprêtent à voter Syriza attendent d'un gouvernement Syriza un quelconque retour en arrière. C'est pas du tout le retour à la case départ, c'est pas cela, c'est simplement arrêter la dégringolade, arrêter tout simplement la pente absolument catastrophique sur laquelle se trouve le pays maintenant depuis bien trop longtemps. Hein. Syriza ne propose pas du tout de revenir à une économie de la rente, tout au contraire.
Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que Syriza le propose. La question, c'est qu'il y a dans la tête des gens.
Oui, dans la tête des gens, il n'y a pas, y a pas de retour.
Je dis clairement que les cadres du Syriza regardent vers l'avenir. La question, c'est comment cette promesse est intégrée à partir d'une expérience de 3 décennies de rente.
Voilà. Et dans la tête des gens, maintenant, les gens ont très bien compris que la rente, eh bien, c'est pas ce qui permet à la Grèce de vivre. Les gens ont très bien compris que le tourisme atteint des limites. Et les gens comprennent de mieux en mieux aujourd'hui que ce dont la Grèce a besoin, c'est d'un véritable programme de développement. Et Georges Prévelakis, vous-même, vous parliez tout à l'heure de croissance et de développement. C'est bien, en effet, l'enjeu. C'est bien cela. Et non pas le retour quelconque à une société de la, de
oui,
la
rente. Oui, non, mais vous savez, il y a un décalage entre, si vous voulez, nos débats, qu'on est d'accord ou non, mais enfin, il y a bien sûr, je pense, une analyse commune, c'est-à-dire que la situation qu'on a vécue en Grèce est un désastre pendant 30 ans, justement parce que c'est une économie de rente à cause du clientélisme, etc. So, d'un côté, c'est notre discussion à nous.
Et les ensuite, Grecs ont compris ça.
C'est une question d'appréciation, mais moi j'ai beaucoup des doutes. Mais c'est peut-être parce que quand on est plus âgé, on est un peu plus pessimiste.
Non, c'est pas ça, c'est que je crois.
D'accord avec vous, je ne pense pas que les Grecs, et encore une fois, il y a ceux qui souffrent absolument, qui veulent juste que ça s'arrête et qui réfléchissent peut-être pas en termes de développement du pays, mais je crois que si cette crise a montré quelque chose, c'est que le modèle de la Grèce de ces 30 dernières années, et je crois qu'une majorité de Grecs en a conscience, à l'inverse de vous, a bien montré les limites du modèle de développement, et je crois que les Grecs pensent et réfléchissent à demain, à ce qu'il faut lancer ou investir. Ce sont des discussions que l'on entend véritablement dans les cercles les plus divers aujourd'hui. Sur quoi le pays doit-il miser aujourd'hui? Je crois que ça le dépasse largement cette mentalité un peu attentiste de la rente dont vous parlez, Monsieur Prévelakis. Je crois qu'aujourd'hui, ce que la crise a permis, c'est peut-être ce sursaut un peu dans la population grecque et de dire « Ah, on est arrivé au bout de quelque chose, bon, maintenant il faut réfléchir à demain ». Et ça, les deux parties, je veux dire que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde a aujourd'hui un plan de développement. Alors, on est en période électorale, certes, mais je crois qu'il y a vraiment un effort de réflexion qui dépasse largement les cercles politiques ou vous-même intellectuels. Je crois que dans la population grecque, c'est quelque chose qui existe.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique.
Alors rapidement, absolument, pour que nos auditeurs comprennent bien l'état des lieux économiques, Gabriel Colletti, avec vous, est-ce que la Grèce en est dans ce tunnel, oui, d'austérité qui est le sien depuis plusieurs années ?
Tout d'abord, je voudrais peut-être rectifier un point. Cela fait maintenant plusieurs années que le parti Syriza a très clairement tranché la question de l'appartenance ou non de la Grèce dans la zone euro. Ouais. Syriza a déclaré de manière très nette, très claire, même si ceci a produit certains départs au sein de ce parti politique, que la Grèce devait rester dans la zone euro, que l'avenir de la Grèce se produirait dans la zone euro, pour une raison qui, au demeurant, est extrêmement simple, hein, qui est à la fois économique et sociale, c'est que si ce n'était pas le cas, si le gouvernement grec décidait de sortir de la zone euro, ça signifierait évidemment l'introduction de la drachme, une drachme nouvelle, qui se déprécierait instantanément de 50 ou de 60%, renchérissant par conséquent le coût des importations. Et comme ces importations en Grèce sont incompressibles, les Grecs consomment énormément de produits importés, eh bien ça signifierait un choc de pauvreté absolument gigantesque pour un pays qui souffre déjà énormément. Donc évidemment, un parti de gouvernement serait totalement irresponsable que de proposer une issue comme celle-là. Syriza l'a parfaitement compris et donc le projet global de Syriza est un projet de réorientation de la zone euro, certes, mais de maintien dans la zone euro. Donc voilà, ça c'est un point, je crois, que les auditeurs doivent absolument bien avoir à l'esprit. Alors maintenant, pour répondre à votre question, bien sûr, la nouvelle démocratie en Grèce et surtout à l'étranger dit qu'elle est en train de réussir, qu'il faut lui laisser le temps de réussir. En réalité, elle est en train d'échouer lamentablement et les indicateurs qu'elle met en avant sont des indicateurs de très mauvaise qualité. Lorsque la nouvelle démocratie, le gouvernement de nouvelle démocratie dit que maintenant la Grèce dégage un excédent de son budget, c'est évidemment faux puisqu'il s'agit de l'excédent de son budget primaire, c'est-à-dire d'un excédent qui ne tient pas compte du remboursement de la dette et des intérêts. Dès que l'on intègre ce poste-là qui représente quand même 20 à 25% des dépenses de l'État, le budget grec reste extraordinairement déficitaire. De la même manière, et tout le monde le sait, que la dette grecque a littéralement explosé. Elle représente aujourd'hui 180% du PIB, c'est-à-dire beaucoup plus que la limite maximale de la dette estimée par les économistes du FMI comme étant une dette soutenable, c'est-à-dire 120%. Donc, je vois mal en quoi on pourrait considérer que la politique actuelle a commencer à réussir. Je crois qu'elle échoue lamentablement. Comme chacun le sait, le PIB grec a baissé de 25%. Le chômage demeure très, très élevé. Et tous les indicateurs sociaux sont catastrophiques. Je prendrai simplement un chiffre. Vous n'avez aujourd'hui que 15% des chômeurs en Grèce qui reçoivent une allocation chômage. Voilà, je crois que ça se passe en quelque sorte de commentaire. Donc la situation économique est très mauvaise et les Grecs la ressentent comme telle et je pense qu'ils ont effectivement tout à fait raison.
Alors très rapidement, parce que le temps court, mais j'ai encore deux points que je souhaiterais qu'on développe. Le premier, c'est que on a pu constater finalement avec cette campagne électorale que rarement élection dans un pays européen ou disons une échéance électorale n'aura eu un tel impact et n'aura suscité autant de prises de position, de déclarations. Joël Dallègre, est-ce que les Grecs se sentent libres pour ce scrutin ?
Ça m'étonnerait, étant donné la quantité d'avis qui leur est fournie quotidiennement par finalement la presse étrangère, les dirigeants européens, les banques variées, etc. Et ça fait déjà un petit bout de temps que ça dure, puisqu'en fait, depuis le début de la mise en route des plans FMI, etc., tout le monde sait que les chiffres donnés dans les plans comme des idéaux à atteindre viennent de l'extérieur, donc ils peuvent pas se sentir libres. Par contre, c'est vrai qu'on est arrivé au moment où l'élection grecque a un retentissement européen, parce que la nécessité de faire quelque chose concernant la dette, puisqu'effectivement tout le monde sait qu'elle est insoutenable et impossible, ce quelque chose, quelle que soit la façon dont il s'organise, sera le fruit d'une négociation avec l'extérieur. Ce ne sera pas les Grecs tout seuls qui vont décider. Donc, du même coup, ça a un retentissement européen, ça suppose effectivement de lourdes négociations. Donc c'est vrai que l'Union nationale serait nettement supérieure et profitable. Et qu'en plus, ça a politiquement, bien sûr, un retentissement sur toute l'Europe du Sud en particulier, où Il est vrai que votre fameux domino, il y en a d'autres qui attendent avec impatience qu'on leur ait montré l'exemple pour eux aussi demander quelque chose.
Alors les autres qui attendent avec impatience, Adéa Guillot, je me tourne vers vous, c'est notamment l'Espagne. C'est vrai qu'elle est très attentive, l'Espagne, hein, à ce qui se passe en Grèce et aux résultats du scrutin de demain.
D'autant plus qu'en Espagne, il y a donc ce mouvement complètement issu de la Grèce, Podemos, hein, qui est un mouvement de gauche. J'ai du mal à le qualifier parce que c'est tellement un prototype qui regarde attentivement. Et il y a une alliance objective entre Podemos et Syriza aujourd'hui. Par exemple, le leader de Podemos est venu par exemple au grand meeting de fin de campagne d'Alexis Tsipras pour le soutenir. Donc je crois qu'il y a une idée que la gauche radicale dans le sud de l'Europe peut ouvrir la voie à un nouveau modèle en Europe. En tout cas, c'est leur pari politique à eux. Évidemment, avec des résistances très importantes de l'Europe du Nord, qui est encore largement guidée et aux mains des conservateurs, et notamment de l'Allemagne.
Mmh. Un mot de conclusion, alors je vais le donner à Gabriel Colletis et à Georges Prevelakis. Gabriel Colletis.
Oui, alors moi je crois que le programme de Syriza, c'est donc bien un programme de développement de la Grèce. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui se passe au niveau des institutions européennes, finalement, peut ouvrir une sorte de fenêtre d'opportunité. Vous vous rappellerez sans doute du plan Juncker, hein, qui nous annonce, même s'il est modeste, ce plan Juncker, une relance de l'investissement en Europe, des moyens pour relancer l'investissement via la Banque européenne d'investissement. Mmh. Évidemment, le nouveau gouvernement grec va s'appuyer sur le plan Juncker et la Banque européenne d'investissement pour financer des projets productifs en Grèce. Les décisions de la Banque centrale européenne concernant la possibilité par la Banque centrale européenne d'achat de dette vont concerner la Grèce, évidemment, puisqu'il faudra bien que cette dette grecque soit d'une manière ou d'une autre apurée et prise en charge. Donc je pense que si, d'un côté, le gouvernement Syriza dispose d'un programme solide et cohérent au sein de la zone euro, et que de l'autre côté, les inflexions qui sont aujourd'hui considérées pour beaucoup d'économistes, beaucoup d'hommes politiques comme étant nécessaires, se font au niveau européen, eh bien je pense qu'en effet, l'Europe et la Grèce, et j'espère la France aussi, eh bien pourront prendre un autre chemin que celui des politiques menées depuis quelques années.
Georges Prevelakis.
Dès les débuts, si vous voulez, de la crise, même à partir de 2008 avec les émeutes grecques, je n'ai pas cessé à dire que les enjeux grecs ne sont pas économiques. On a une spécificité, c'est qu'on est dans un contexte géopolitique différent. Nous sommes à l'Europe orientale, nous avons des traditions différentes, et ça, je pense qu'on ne l'a pas intégré. Et c'est pour ça que tous les deux ans, on se réveille en Europe pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec la Grèce. Et là, on risque d'arriver à l'heure de vérité, d'entrer dans une période où toutes les contradictions vont se rassembler. Il ne faut pas seulement voir l'impact économique, il faut voir l'impact géopolitique parce que nous sommes dans un carrefour géopolitique du monde. Donc, je répète encore une fois, du côté européen, il faut plus d'attention, il faut plus de concentration sur la Grèce, il faut mettre des personnalités avec plus d'ampleur politique, il ne faut pas laisser cette affaire aux technocrates. Le problème grec peut devenir un problème beaucoup plus large et créer une crise européenne.
Bon, je vois en tout cas que vous m'avez donné l'idée d'une nouvelle émission de géopolitique, Georges Prevelakis, sur donc la géopolitique de la Grèce, et la Grèce qui n'est pas ni l'Espagne ni le Portugal. C'est la fin de géopolitique. Merci à nos invités par téléphone depuis Athènes, Adéa Guillot, qui est journaliste, correspondante des quotidiens Le Monde et Le Soir de Bruxelles, également la chaîne de télévision Arte, et co-auteur avec Françoise Arvanitis de Grèce, La Nouvelle Odyssée. Joëlle Dallègre, historienne, spécialiste de la Grèce moderne et auteur de nombreux ouvrages dont Regard sur la crise grecque. Gabriel Colletis, qui était avec nous depuis Radio France Toulouse. Gabriel Colletis, qui est professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse 1 et auteur de nombreux ouvrages, dont un sorti en grec et qui s'intitule « Sortir de la crise pour un pays que nous méritons ». Et Georges Prevelakis, professeur de géopolitique à l'université Panthéon-Sorbonne, auteur de géopolitique de la Grèce. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Regard sur la Turquie, une édition de Géopolitique qui vous sera présentée par Éric Bataillon. À très bientôt.